Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
j'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Allez, 19h, on est reparti. La deuxième heure de Good Evening Business en direct toujours avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
Et donc on va retourner dans le Pas-de-Calais parce que ça a été évidemment l'attraction de la journée, l'inauguration de la première Gigafactory, la première usine de batteries électriques en France. On va aller sur place retrouver Justine Vassogne bien sûr dans un instant.
Et dans l'actualité aussi ce soir, un nouveau plan pour lutter contre la fraude sociale, estimé entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Alors ce plan a été dévoilé aujourd'hui par le gouvernement. Se donne-t-on une chance de récupérer une partie du manque à gagner? Eh bien, on va poser la question tout à l'heure.
Et puis, on en parlait lundi, mais vous savez qu'on suit ça cette semaine, hein, sous l'égide de l'UNESCO. On réfléchit, on discute de l'avenir de la pollution plastique, comment l'éradiquer. Bah, Edwige Chevrier, on en parlera tout à l'heure à 19h30 dans sa grande interview. Elle recevra l'écrivain Éric Orsenna, ainsi que Sabine Route-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer. Voilà le programme. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
D'abord, avant d'évoquer tous ces sujets, on va aller faire un tour du côté des États-Unis avec des marchés qui attendent fébrilement, a priori pas pour aujourd'hui, mais qui attendent un vote du Congrès sur le relèvement du plafond de la dette. Bonsoir Sabrina Cagliozzi, on vous retrouve à New York pour BFM Business.
Bonsoir.
Il y a eu un accord verbal entre Biden et les Républicains, maintenant il faut transformer l'essai, Sabrina. Hein.
Oui, rappelons que cet accord en question relève jusqu'à après l'élection présidentielle de 2024 le plafond d'endettement public des États-Unis. Les dépenses non liées à la défense resteront identiques l'année prochaine et n'augmenteront que nominalement en 2025. En contrepartie, les Républicains ont obtenu une baisse de 10 milliards de dollars des fonds alloués aux services fiscaux. Des nouvelles conditions vont également être imposées pour bénéficier de certaines aides sociales. Ce projet de loi va devoir faire son premier test majeur tout à l'heure, avant d'être soumis au vote de la Chambre des représentants demain. Il doit en effet être approuvé d'abord par une majorité des 13 membres d'un comité de la Chambre qui fixe, vous savez, les règles du débat sur le projet de loi. Eh bien, ce comité doit se réunir tout à l'heure à 21h heure française. Rien n'est gagné puisque il y a deux membres républicains qui ont déjà manifesté leur opposition. À surveiller donc dans 2 heures pour voir si on aura un vote ou non demain à la Chambre des représentants.
Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve dans quelques minutes pour faire ce point sur ces marchés qui, on le disait, attendent fébrilement de voir comment les choses vont se passer dans les prochaines heures, bien sûr. 19h03, je vous disais, elle se situe à Billy-Berclau, dans le Pas-de-Calais, la première Gigafactory française inaugurée ce matin par 3 ministres et 3 patrons, pas des moindres, celui de Total, de Stellantis et de Mercedes, tous parties prenantes du projet. Justine Vassogne est sur place pour BFM Business.
Oui, en effet, c'était une inauguration en grande pompe ici à Billy-Berclau avec cette image assez rare de 3 grands patrons de l'industrie européenne réunis. Le patron de Mercedes, celui de Total, Patrick Pouyanné, et celui de Stellantis, Carlos Tavares. Les 3 hommes ont visité la Gigafactory en compagnie de Bruno Le Maire. Carlos Tavares lui a d'ailleurs lancé « Elle est concrète, cette usine, tu peux la toucher si tu veux » parce que Billy-Berclau, c'est la première Gigafactory sur le sol français. C'est un site impressionnant de 34 hectares qui comptera au total 180 000 mètres carrés d'atelier. Alors on n'a pas vu de batterie aujourd'hui, hein. La production en grande série ne débutera qu'à la fin de l'année. On est encore dans une phase d'apprentissage, nous a dit Carlos Tavares. On va apprendre à faire du volume, on va se tromper, on va tomber et puis on va régler les problèmes. L'important maintenant, c'est d'être compétitif, a lancé de son côté Patrick Pouyanné, alors que la France et l'Europe, on le sait, ont plusieurs trains de retard sur l'Asie et sur la Chine en termes de véhicules électriques. Cette usine n'est qu'un début, a de son côté souligné Bruno Le Maire, qui a appelé à investir plus encore sur les matériaux rares, sur le raffinage. L'Europe, selon le ministre de l'économie, doit maintenant montrer ses muscles industriels.
Voilà, Justine Vassong donc à Billy Berclos dans le Pas-de-Calais pour BFM Business. Est-ce qu'on dit cocorico, est-ce qu'on dit c'est un grand soir pour l'industrie française et européenne d'une manière générale, Audrey, pour vous?
Absolument, surtout que ces batteries, elles ont deux avantages. Un sur la sécurité, parce qu'elles sont non inflammables. Et par ailleurs, elles vont permettre à nos voitures d'avoir deux fois plus d'autonomie en utilisant moins de métaux rares et en étant un peu moins chères. Donc a priori, les ventes de voitures électriques devraient exploser grâce à ces nouvelles technologies.
Voilà donc pour cette journée à Billy Berclos, qui a vu se déplacer plusieurs ministres et plusieurs grands chefs d'entreprise. La première Gigafactory, on vous rappelle, d'autres vont suivre. Bien sûr, dans les prochaines années, dans le nord de la France. Et puis, on en reparlera demain matin, effectivement, de cette belle journée, puisque c'est Yann Vincent Girastan, le directeur général d'ADEC, la co-entreprise Total Stellantis Mercedes. C'est Yann Vincent qui sera l'invité de Good Evening Business demain matin à 8h15 sur BFM Business. 19h06, en France toujours, la réforme des retraites. La commission des finances a tranché la fameuse proposition de loi du groupe Liotte pour revenir sur le plan du gouvernement. Cette proposition de loi est recevable, donc en aucun cas inconstitutionnelle. Écoutez Éric Coquerel, le président de cette commission des finances à l'Assemblée.
On ne peut pas, au nom du fait que la majorité n'est pas majoritaire, on ne peut pas elle ne peut pas se permettre comme ça de tordre les règlements à la limite, de tordre les lois à la limite pour faire passer des textes sans vote. À un moment donné, je pense que tout ça ne peut pas tenir. Et c'est moi ce que je redoute. Et là, c'est un test quelque part. On a eu le 49-3, on a eu le 47-1. Je pense qu'il serait bien que là, cette fois-ci, on puisse aller au vote. Ça serait sain pour la démocratie et pour tout le monde.
Voilà, Éric Coquerel, président de la Commission des Finances. Donc ce texte qui passera demain dans une autre commission et qui sera soumis au vote des députés, ça sera le 8 juin prochain. On suivra ça évidemment sur BFM Business. Et puis pendant ce temps, on vous disait, la campagne continue du côté du MEDEF. Et il se trouve que ce matin, les deux finalistes passaient un grand oral devant l'Assemblée Générale du MEDEF, devant un millier de patrons, de décideurs. Bonsoir Caroline Morisseau, vous y étiez, c'était à Paris. Comment ça s'est passé concrètement, Caroline?
Ils ont parlé à tour de rôle et ils ont eu 45 minutes, ces deux candidats, pour présenter leur programme et répondre aux questions des quelques 1100 grands électeurs qui voteront au final le 6 juillet prochain. Une grande partie de ces électeurs n'étaient pas là physiquement, mais à distance. Après tirage au sort, c'est Dominique Carlac, l'actuel porte-parole du MEDEF, qui s'est exprimé la première. Et elle a tenté de ringardiser un peu Patrick Martin en se posant comme la candidate du changement, de la modernité, à son rival qui a fait de la croissance le maître mot de son programme. Elle a rétorqué, la croissance, bien sûr, c'est une évidence. Elle aussi veut s'y attaquer. Mais elle a aussi insisté sur d'autres sujets, notamment l'organisation du temps de travail. Elle considère que le MEDEF ne peut pas faire l'impasse sur ces sujets. Derrière, c'est Patrick Martin qui s'est exprimé. Lui, il a surtout vanté le bilan du MEDEF ces cinq dernières années, puisqu'il était numéro 2 du MEDEF pendant ces cinq dernières années. La baisse des impôts de production, la mise en place des PGE ou encore les aides à l'apprentissage. Le MEDEF de combat, de changement, ça ne veut rien dire, a-t-il dit. L'important, c'est l'efficacité, d'où le fait qu'il vante son bilan sur ces cinq dernières années. Et puis, il a à nouveau insisté sur la croissance. Cela peut paraître évident, a-t-il dit, mais pas du tout. Ce débat ne fait plus l'unanimité aujourd'hui, et pourtant, c'est la clé, dit-il, pour ensuite investir dans la lutte contre le réchauffement climatique ou encore pour assurer la pérennité des modèles sociaux.
Bon, trois quarts d'heure chacun, est-ce que vous allez sentiment qu'il y en a un qui a marqué des points?
Non, alors ce matin, c'est difficile, difficile de dire qui a marqué le plus de points. Ces dernières heures, en revanche, Dominique Carlac a vu un certain nombre de grands patrons se rallier à elle. C'est le cas de Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault. C'est le cas aussi de Christelle Edman, la patronne d'Orange. Alors, pas sûr que ça suffise à inverser la tendance. Depuis le début de sa campagne, Patrick Martin est, lui, soutenu par des poids lourds de très grosses fédérations, lui-même, la Fédération de la Métallurgie notamment. Il a aussi eu le soutien du président de la Fédération du bâtiment. Ce sont des fédérations qui pèsent très lourd en fait au sein du corps électoral pour l'élection finale le 6 juillet prochain. Donc c'est toujours lui pour l'instant qui passe pour le favori dans cette élection.
Merci Caroline Morisseau. Donc élection le 6 juillet prochain. Puis dans l'intervalle, on vous le rappelle, bien sûr, on va vous rappeler tous les jours, le grand rendez-vous, ça sera le lundi 26 juin prochain. Débat en direct sur BFM Business entre les deux finalistes, Dominique Carlac et Patrick Martin, lundi 26 juin, donc 18h-20h, ça sera en direct sur BFM Business. Dans le secteur IMO, c'est une date, les notaires et l'INSEE nous l'ont dit ce matin, au quatrième trimestre 2022, et pour la première fois depuis 2015, ça y est, les prix dans l'ancien ont commencé à enregistrer une toute petite baisse, moins 0,2% par rapport au trimestre précédent. Les chiffres donc sont tombés ce matin. Et alors, puisqu'on parle de ça, figurez-vous qu'à la fin de la semaine, là, on commencera à avoir les premières réponses pour les étudiants, les premières réponses d'admission de Parcoursup. Et ça, ça va donner le coup d'envoi de la chasse au logement étudiant pour la rentrée prochaine. D'habitude, c'est très tendu, mais alors cette année, ça s'annonce encore plus compliqué. Marie-Cœur de Roy nous raconte ça.
Les étudiants vont subir de plein fouet la crise dans laquelle s'enfonce le marché locatif. En témoignent les chiffres du site Loc Service. Sur les loyers d'abord, ils repartent à la hausse quasiment partout. On est désormais autour de 880 euros par mois en moyenne pour un studio à Paris et environ 700 en périphérie. Nice, Lyon et Bordeaux aussi autour des 600 euros de loyer mensuel. Mais ce sont les villes plus abordables qui augmentent le plus vite. Des villes qui comptent de plus en plus de locataires faute de pouvoir devenir propriétaires. Championne des hausses, Le Havre, plus 6% sur un an pour un studio, plus 5% pour Strasbourg et Angers et plus 4% pour Marseille et Nantes. En cause évidemment la pénurie d'offres. Et en termes de tension locative, justement, Paris n'arrive que 10e. C'est Lyon qui est en tête avec plus de 5 demandes d'étudiants par studio à louer. Rennes arrive juste derrière. Viennent ensuite Angers, La Rochelle, Lille et Bordeaux. Même Nantes et Montpellier sont aujourd'hui plus tendus que Paris.
Voilà, la course au logement étudiant qui va commencer à s'emballer dès le début du mois de juin. Marie-Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. 19h11, on retourne sur les marchés tout de suite sur BFM Business. Je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris. Forte baisse hein, ce soir pour l'indice parisien qui cède à la clôture 1,3%, 7209 points. Rebonsoir Sabrina, on fait un petit point avec vous. On le disait, on est tendu. On attend un petit peu de savoir comment ça va se passer du Congrès américain dans les prochaines heures. Hein.
Ah oui, beaucoup de nervosité en attendant le verdict et des marchés qui effectivement hésitent pas mal. On a un Dow Jones qui est en baisse de 0,4%, pénalisé par la forte baisse de Chevron dans le sillage d'une baisse de plus de 4% des prix du pétrole. On est sous les $70 le baril de brut américain. Le S&P 500 est à l'équilibre actuellement, 4207 points. Et puis le Nasdaq est en hausse, on surperforme de nouveau, plus 0,5%. Mais on est loin des plus hauts niveaux de la séance. Ce matin, on était sur une hausse de plus de 1% sur cet indice. Le Nasdaq qui profite de l'envolée, la nouvelle progression d'un certain Nvidia, le leader mondial des processeurs graphiques, outil indispensable dans le développement de l'intelligence artificielle générative, qui entre officiellement dans le club très fermé des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il vient ainsi aux côtés des entreprises américaines Microsoft, Amazon, Alphabet ou encore Apple. Nvidia qui grimpe encore donc aujourd'hui avec la présentation de nouveaux produits liés à l'intelligence artificielle. Nvidia qui est en hausse de 4%. On est à $404.53 sur le titre et ça profite à d'autres valeurs du secteur comme Broadcom qui grimpe de son côté de 2,4%. Mais un essoufflement donc encore une fois par rapport au plus haut niveau de la séance. Washington bien sûr qui occupe les esprits. Le Dow Jones, moins 0,4%. Le S&P 500 à l'équilibre et l'indice Nasdaq de son côté affiche une hausse de 0,4%.
Merci beaucoup Sabrina. Donc Sabrina Cagliuzzi avec nous sur BFM Business. On va vous suivre bien sûr les évolutions des événements du côté du Congrès américain et puis l'incidence sur la séance. On sera avec vous bien sûr jusqu'à 22h pour suivre tout ça. 19h13, on marque une petite pause sur BFM Business. Conversation passionnante dans un instant. Thérapie génique et la façon dont l'intelligence artificielle peut venir en renfort de la thérapie génique. C'est le président du directoire de Genomics, la biotech Genomics, Aaron Ben-Simon, qui est avec nous dans un instant pour en parler de longues minutes sur BFM Business. A tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
19h15 et notre invité maintenant va nous parler de biotechnologie. C'est le PDG de Genomics Vision. Bonsoir Aaron Ben-Simon.
Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors, donc, Genomics Vision, c'est une société de biotechnologie qui développe à la fois des produits et des services qui sont dédiés au génome, mais aussi à l'analyse et au contrôle des modifications du génome. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est la bioproduction ?
Bien sûr. Merci pour cette invitation et c'est avec plaisir que je partage avec vous et vos téléspectateurs les nouveautés de Genomics Vision. Alors, qu'est-ce que c'est la bioproduction et comment Genomics Vision intervient dans ce dans ce procédé. La bioproduction, c'est la production de médicaments à l'aide d'organismes vivants. On prend l'exemple de l'insuline. Aujourd'hui, l'insuline est principalement produite grâce à des bactéries qui ont été génétiquement modifiées. Alors, ce qui nous intéresse...
Que tout le monde ne sait pas, ça, vous savez. Hein, tout le monde ne le sait pas, ça. Vous
comprenez un truc, là. J'imagine.
Oui.
C'est la nouvelle possibilité de créer des médicaments.
Ouais. Hein,
c'est moins bien contrôlé, on va peut-être en parler.
On va en parler,
Que la chimie, mais c'est la nouvelle tendance. Et la France s'engouffre dans cette tendance, puisque une grande partie des médicaments bioproduits ne sont pas produits en France. On en parlera peut-être.
Ouais.
Donc, pour revenir à votre question... ce qui nous intéresse spécifiquement chez Genomic Vision, c'est le contrôle qualité de cette bioproduction. Donc on va produire un médicament, et un exemple c'est les anticorps monoclonaux. Ce sont des médicaments qui sont utilisés aujourd'hui dans le traitement des cancers, dans le traitement des maladies infectieuses, dans le traitement des maladies inflammatoires.
D'accord.
Et ces médicaments sont produits grâce à des cellules qui ont été génétiquement modifiées pour justement produire à grande échelle et avec une efficacité très élevée des médicaments important, bien évidemment.
À forte valeur ajoutée.
Mais pour lesquels on a besoin d'un contrôle qualité exigeant.
J'ai lu une tournure de phrase, vous dites j'ai débobiné les chromosomes. Voilà, c'est du réaménagement du génome. C'est ça en fait, c'est débobiner le génome.
Alors, ça,
les chromosomes.
Vous avez raison.
Oui, c'est ça.
Donc, on débobine les chromosomes.
Ouais.
Et ça, c'est la technologie unique et propriétaire de Genomic Vision. Donc c'est une découverte.
C'est celle que vous avez brevetée, vous.
Tout à fait, exactement. C'est une découverte que j'ai faite quand j'étais chercheur à l'Institut Pasteur.
Ouais.
Donc, technologie pasteurienne, brevetée, et mon laboratoire a déposé un portefeuille de brevets sur les applications de cette technologie. Et c'est cette technologie qu'on utilise aujourd'hui dans le contrôle qualité de la bioproduction, de ces cellules génétiquement transformées.
Mais vous avez mis aussi au point des technologies qui sont basées sur l'intelligence artificielle.
Oui. Les trois dernières années, notre équipe de bioinformaticiens s'est concentrée justement pour tirer le meilleur de l'intelligence artificielle. Si je résume de façon très simple, c'est la possibilité d'analyser des centaines de données et d'en tirer le meilleur grâce à ces algorithmes qui vont justement analyser très rapidement et nous permettre à nous, chercheurs, de pouvoir déduire et tirer des conclusions sur ces procédés. Donc, on utilise le peignage de l'ADN,
le débobinement des chromosomes,
couplé à des algorithmes d'intelligence artificielle, et ça nous permet d'aller sélectionner les meilleures cellules qui auront d'abord une stabilité et une productivité adéquate.
Si on citait une ou deux applications concrètes, justement, de cette sélection que vous réalisez grâce à cette technologie, des applications concrètes sur des maladies, j'ose pas dire du quotidien, mais...
Alors, il y a des dizaines d'anticorps monoclonaux qui sont produits par ces technologies de génétique, d'engineering, je dirais, des cellules modifiées. Les producteurs, ce ne sont pas Genomic Vision. Les producteurs sont l'industrie pharmaceutique.
Oui, oui.
On a aussi des laboratoires qui sont spécialisés dans ce type d'industrie. Nous, ce que l'on veut apporter à ce marché et à cette industrie, c'est un outil de contrôle qualité de ce qu'ils peuvent faire. En ajoutant les algorithmes d'intelligence artificielle, on pourra modéliser et choisir en amont quelles sont les cellules qui seront le plus stables et qui produiront le plus d'anticorps monoclonaux, par exemple.
C'est ça.
Passionnant, mais alors, enfin, évidemment, il y a un énorme enjeu, j'imagine, de souveraineté, mais vous disiez que la France a beaucoup de retard. Est-ce qu'on est en train de rattraper ce retard ?
Oui, tout à fait. Il y a des initiatives gouvernementales, et notamment...
Et des financements ?
Et des financements. Et notamment le nouveau consortium BioLead, qui a réuni des dizaines, peut-être même une centaine d'acteurs spécialisés dans ce domaine de la bioproduction pour justement reprendre, si je puis dire, le contrôle et les rênes de cette industrie en France.
Et ce débat justement sur la souveraineté en matière de médicaments, on en a parlé ces dernières années, on en a parlé encore récemment. Comment est-ce que vous le regardez, ce débat, vous, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous inspire ?
Merci, très question très intéressante.
Est-ce que vous dites la souveraineté en matière médicamenteuse, ça ne doit pas être la question que de la France, elle doit se faire au niveau européen finalement. Est-ce
Alors, la souveraineté, je pense qu'on doit renforcer notre souveraineté sur ces aspects-là.
Ouais.
On l'a vu dans le Covid, notre dépendance dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, comme je le disais, 90% des médicaments sont produits à l'étranger. Donc il est clair qu'on doit reprendre, si je puis dire, la main sur cette bioproduction, d'autant plus qu'on a toute la matière grise et l'industrie pour le faire. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir combler ce retard qu'on a accumulé.
Mais alors, par rapport à votre stratégie, est-ce que vous venez de nous expliquer de Genomic Vision, en ce moment, est-ce que vous êtes en train de recruter ? Quel profil cherchez-vous ?
Alors, on est en recrutement, je dirais, de façon continue.
Oui. Mais alors, plutôt des chercheurs ?
Alors, principalement des chercheurs, des ingénieurs en bioinformatique, spécialisé dans l'intelligence artificielle, machine learning, des docteurs en biologie moléculaire et en biologie cellulaire, et bien sûr des commerciaux qui seront notre force de vente.
Mais parce que quand vous dites en France on a toute la matière grise face aux enjeux, donc ça veut dire que vous dites que les universités et les différentes académies sont au niveau justement des enjeux actuels.
Absolument. Ouais. Absolument. Il n'y a aucun retard à ce niveau-là à l'évidence.
Et les clients de Genomic Vision, alors quels sont-ils ? Parce que c'est du B2B.
Alors, les clients vont être l'industrie pharma, puisqu'on parle du médicament. Il y a des sociétés, il y a une industrie bien spécialisée qui va, elle, rendre des services, par exemple dans des essais cliniques. Je n'ai pas parlé aujourd'hui de la thérapie génique, mais la thérapie génique, c'est à peu près la même chose. On va génétiquement modifier une cellule, puis après, on va l'utiliser comme un médicament pour le patient lui-même. Donc, il y a des essais cliniques qui doivent être faits grâce à ces cellules génétiquement modifiées. Mmh. Et donc, hôpitaux, industrie pharma et industrie de la production des médicaments. C'est les trois clients majeurs de GV.
En matière de thérapie génique, est-ce que le Covid, c'est véritablement un tournant pour cette industrie, pour cette technologie ? Est-ce que ça a marqué un tournant, un accélérateur, véritablement ?
Accélérateur, oui.
Ouais.
Oui. Au niveau de la recherche et de la découverte, non. Puisque les ARN messagers, on les connaissait, on les a utilisés. Par contre, au niveau de l'accélération, il y a clairement eu un
Aaron Ben-Simon, pardon, il nous reste un peu moins d'une minute. Un mot peut-être sur la nouvelle gouvernance de Genomic Vision.
Nous avons renforcé notre gouvernance avec des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, notamment le docteur Florence Alouche, qui est une spécialiste de la thérapie génique et qui a dirigé le bureau des brevets à la PHP. Et donc, cette gouvernance plus le nouveau directoire de Genomic Vision, je pense aujourd'hui, est armé pour se lancer dans cette nouvelle aventure.
Et ben voilà pour les défis de Genomics Vision. Merci beaucoup Aaron Ben-Simon. Merci de passer nous voir ce soir pour parler de ces passionnants défis.
Merci à vous.
De la santé. Merci infiniment de passer nous voir ce soir sur BFM Business. 19h26.
Edwige Chevrillon a rejoint ce plateau. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Audrey. Bonsoir Edwige. Bonsoir monsieur.
Vos invités ce soir, ils sont deux.
Planque. Ah oui, ma bouteille.
Personne ne l'a vu.
On va évidemment parler d'en plastique. Vous en avez parlé hier. Il y a cette réunion très importante pour essayer de trouver un accord, un traité international. Déjà, ça a à peine commencé, ça bloque déjà ce soir. Deux invités pour en parler, Sabine Roux-de-Bézieux, qui est présidente de la Fondation de la Mer, et puis l'académicien Eric Orsena, qui a publié « La terre a soif ». Avant, c'était l'avenir de l'eau, c'est un de ses sujets favoris, si on peut dire. Très inquiets, tous les deux, mais comment va-t-on faire? Il faut bien une solution.
Donc, il faut se mettre d'accord à 175, ce qui n'est jamais aisé, en l'occurrence. Ouais. Voilà vos invités, Eric Orsena, Sabine Roux-de-Bézieux, la grande interview Edwige Chevrillon, dans un instant, 19h30, 20h, et nous, on se retrouve demain, 18h, pour de nouvelles aventures.
Et comme tous les soirs, l'émission est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et tout de suite c'est la grande interview.
Très bonne soirée, à demain.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec deux invités ce soir. Il faut dire que le sujet est grave. Pourra-t-on un jour se passer de plastique? Vous savez, 175 pays essayent de trouver une solution, mais à peine les négociations entamées qu'elles sont déjà ce soir bloquées. Bonsoir Sabine Roux-de-Bézieux.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Fondation de la Mer que vous avez créée. Vous travaillez avec de nombreux scientifiques. Vous nous raconterez aussi qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, la société civile, dans ces négociations avec tous ces grands pays qui s'affrontent. Et puis avec vous, Eric Orsena de l'Académie Française. Bonsoir Eric Orsena, on va essayer de faire attention à son langage, à son français, puisque vous êtes là. Vous avez publié La Terre a soif, c'était en septembre 2022. Vous parlez de cette terrible mondialisation du plastique. Et on s'en souvient, vous avez beaucoup travaillé sur l'eau. Et même là, la terre a soif, c'est l'histoire de 33 grands fleuves, dont le fameux Kerpon, qu'on trouve à l'île de Bréa, chez vous.
C'est un
fleuve salé, c'est un courant.
Les courants, c'est les fleuves, comme le Gulf Stream.
Absolument. Et vous parlez du Danube, vous parlez du Gange. Et on verra qu'évidemment, tout se rejoint. Sabine Roux-de-Bézieux, vous sortez de ces négociations que vous suivez pas à pas, même encore là dans le couloir, on va tout dire. Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les enjeux? On les connaît.
Le blocage vient du fait qu'un certain nombre de pays ne souhaitent pas ce traité et donc mettent en place des arguties sur des questions juridiques et plus particulièrement cet après-midi sur la manière dont le vote allait se dérouler. Et donc, tout à l'heure, la Chine a déclaré que, malgré les propositions qui avaient été faites par un certain nombre de pays, elle n'était pas d'accord avec ces propositions-là et qu'elle souhaitait qu'on se mette d'accord sur la manière de voter avant d'avancer. Alors qu'évidemment, on peut passer des semaines à discuter de cela. Donc, les discussions reprennent à 20h30. Et en attendant, il y a un certain nombre de pays qui appellent, quasiment avec des larmes dans les yeux, à la communauté internationale à prendre des mesures. D'autant plus que cette urgence contre la pollution plastique, c'est vraiment une urgence mondiale. Le projet, la négociation qui se déroule en ce moment à Paris est la deuxième étape d'une série de 5 négociations sur le traité plastique et a été démarrée en mars 2022 à Nairobi au Kenya, pendant lequel 175 États des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour l'environnement, se sont mis d'accord pour, d'ici 2025, construire ce traité.
Oui, mais enfin, d'ici 2025, on voit bien que... Est-ce que vous y croyez? Vous me direz, sinon vous ne serez pas là. Mais vous croyez qu'on arrivera à quelque chose, à se passer du plastique?
Vous savez, ce traité a démarré à l'impulsion de la société civile, des ONG, des fondations, comme la Fondation de la Mer, ont poussé les gouvernements à s'aligner sur ce sujet. Et la motivation d'un certain nombre de pays, je pense à la Norvège ou au Rwanda, de mettre en place une coalition de haute ambition avec toute une série d'objectifs. Cette coalition aujourd'hui a doublé le nombre de ses participants, donc oui, on peut être positif, avec la frustration de voir des grands pays, donc la Chine, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, bloquer les négociations.
Les Américains, du reste, qui ne sont pas les États-Unis. Eric Orsena, vous espérez quelque chose? À quoi est-ce que pour vous, vous dites, de toute manière, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, et en même temps, on voit bien que les enjeux sociétaux sont colossaux. Et évidemment, les enjeux climatiques, mais les enjeux sociétaux, c'est presque une question de civilisation.
C'est une question de civilisation et une question aussi de santé. Il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur et je suis ambassadeur de Pasteur depuis 8 ans maintenant. Et donc le plastique, c'est une affaire de santé majeure. Parce qu'il y a des plastiques minuscules qu'on ingère comme ça, donc qui se mettent dans, partout dans notre organisme. Et puis, les plastiques qui sont un peu plus petits, un peu plus gros, ceux-là, ce sont des vrais aimants à saloperie. Et donc, ça veut dire qu'il y a une question de santé. Et donc, ce qui est cette alerte-là, c'est pas juste pour faire gentil. Donc, ça les menace. Donc, peut-être, les êtres humains, quand ils sont menacés, ils gagnent un minuscule en sagesse. C'est une sorte d'égoïsme qui sert à quelque chose. Peut-être.
Peut-être.
Peut-être. Alors, peut-être. D'autant plus que c'est possible. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait un drôle de championnat, la rivière la plus polluée du monde. C'est, semble-t-il, en Indonésie, la rivière Citarum, qui fait 297 km, et il y a chaque jour 280 tonnes de déchets, notamment du plastique. Eh bien, en 5 ans, avec la mobilisation des populations, on a dit que c'est possible. Et on a revu l'eau sous le plastique. Donc c'est possible. Et nous, on a lancé ensemble, d'ailleurs, un pacte comme ça avec les municipalités. Il y a 170 municipalités qui disent « Dans ma ville, on ne rejettera plus du plastique dans notre fleuve ».
Justement, Sabine Roux-Blézieux, vous pouvez nous rappeler, puisque vous travaillez beaucoup dessus, grosso modo, les chiffres, on les a donnés, on peut les lire, mais rappelez-nous les chiffres absolument effarants sur le plastique aujourd'hui, mais aussi ça va continuer et ça va être de pire en pire jusqu'en 2060, je crois.
Alors, quelques chiffres. Dans les années, entre les années 60 et aujourd'hui, la population mondiale a été multipliée par 2,5, la consommation de plastique par 40. Et ouais. D'ici 2060, la consommation de plastique va être encore multipliée par 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre mode de vie est devenu consubstantiel au plastique. Nous sommes dans une plastisphère, si vous voulez.
Bah oui, il suffit de regarder autour de nous. Oui.
Exactement. Ce que nous disait samedi à l'UNESCO la ministre de l'Environnement du Niger ou celle du Pakistan, c'est que notre mode de vie occidental est désirable et que ce mode de vie, il est constitué de plastique. On regarde autour de nous, on est plein de plastique. Or, les pays en développement n'ont pas les moyens de traiter ces plastiques-là. Alors, donc... La consommation de plastique augmente. La gestion des plastiques, en revanche, est catastrophique. Au niveau mondial, le taux de recyclage des plastiques, c'est de 9%. Donc, on met le recyclage comme une solution magique, c'est 9% au niveau mondial. Et on n'est pas beaucoup mieux dans les pays de l'OCDE.
Ouais.
Et peut-être un ou deux chiffres de plus, on a 80% des plastiques qui ont une durée de vie inférieure à un an. Pour comprendre bien que 80% des plastiques ont une durée de vie inférieure à un an.
Du schmaf.
Juste pour, se rendre compte qu'en fait, on a construit des besoins surréalistes, inutiles. Il faudra bien s'en débarrasser.
Justement, c'est intéressant, ça rejoint la question de civilisation, parce que pour moi, c'est quand même très, très lié. Je crois que c'est même vous, quand on préparait cette interview, qui avait dit qu'il y avait une ministre, je ne sais plus si c'est celle du Niger ou pas, qui a dit, mais en fait, vous nous avez exporté votre civilisation. Est-ce qu'on doit avoir un sentiment de culpabilité, Eric Orsena? Et puis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord? Et qui doit payer, tiens?
Et d'ailleurs, on exporte aussi nos déchets.
Oui.
Parce que c'est ceux qui sont traités, c'est ailleurs. Donc, d'abord ça. Et donc, qui doit payer? Mais évidemment, quand vous voyez que les principaux fauteurs de dérèglement climatique sont les pays du Nord les plus riches, et donc, on demande sans arrêt aux pays du Sud de le faire. Donc, vous savez, moi, il y a une notion...
C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Enfin, moi, j'ai le sentiment, comme ça, intuitivement, que tout est pris à l'envers.
Oui, mais tout est pris à l'envers. Simplement, un, c'est possible. Et deux, si on ne comprend pas les alertes. Si on ne comprend pas l'alerte de la dernière pandémie, il y en aura d'autres. On appelle ça la notion très simple de une santé. Si l'environnement va mal, le monde végétal va mal, partout. Si le monde végétal va mal, le règne animal va mal partout. Donc on est des solidarités de fait. Et on se rend compte que s'il n'y a pas des vaccins partout, les virus mutent, et à ce moment-là, c'est reparti. Donc il y a cette solidarité de fait. Donc,
oui, mais attendez, on peut très bien comprendre un pays africain ou un pays en développement qui disent, attendez, c'est bien beau, vous avez vécu comme des rois, et puis maintenant, vous nous dites, alors que souvent, le plastique est perçu comme un élément de standing, non?
C'est ça le paradoxe du plastique.
Voilà, c'est ça le paradoxe du plastique. Et donc, maintenant, on leur dit, attendez, c'est horrible,
Pas les consommer. Il faudrait d'abord donner l'exemple. Quand on voit dans la grande distribution qu'il n'y a aucun sac en papier,
Ah non, ça c'est pas vrai.
Mais attendez.
Je vais pas donner des marques. Attendez, moi je fais mes courses le week-end, je peux vous dire que c'est pas vrai. Il y en a.
Mais il y en a, bien sûr, il y en a.
On vous fait payer, mais
ça. Il y en a un petit peu. Mais la grande majorité, c'est ça. Parce que c'est plus pratique. La civilisation qu'on a développée, c'est du pratique. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être respectueux. Quand vous foutez une beigne, bah, c'est peut-être efficace. Mais si vous voulez être respectueux avec les gens, ça dure plus longtemps, en général, vos relations.
Et c'est pour ça qu'on parle, nous, beaucoup d'empreintes plastiques et du paradoxe du plastique. L'empreinte plastique, ça peut être vu de plein de manières. Par exemple, au niveau d'un État, savoir quelle est la consommation de plastique par an et par habitant. Là, les champions du monde, toute catégorie, c'est les Américains, avec 250 kilos par an de plastique par an et par habitant.
Et ils sont pas là. Hein.
Ils sont pas là.
Non.
L'Europe, on est à 150. La moyenne mondiale, c'est 60. Mmh. Et l'Inde, ils sont à 20 ou 30. Donc vous voyez la différence de comportement. Et puis surtout, vous pouvez imaginer, quand vous multipliez par la population de l'Inde, ce qui peut se passer si les Indiens se mettent à consommer du plastique comme les Américains.
Ou comme les Européens, comme nous.
Ou même comme les Européens. Donc là, il y a un enjeu. Le deuxième enjeu, il est en fin de vie des plastiques. Parce que les pays riches disent, ah oui, d'accord, on fabrique beaucoup, mais on ne pollue pas parce qu'on a mis en place des systèmes de collecte, de tri et de gestion aval de nos déchets. Et c'est vrai que, Eric, vous êtes le spécialiste des fleuves. Il y a 10 fleuves dans le monde.
Et de l'eau.
Qui produisent de l'eau. 10 fleuves dans le monde qui produisent 90% des déchets qu'on retrouve dans l'océan. Et ces 10 fleuves, il y en a 8 en Asie et 2 en Afrique. Donc c'est vrai qu'on peut dire aussi, nous en Europe, ou les pays, disons, les pays de l'OCDE, on produit beaucoup, mais on ne pollue pas. Et ce sont les pays de non-OCDE qui polluent. Mais en réalité, il y a une responsabilité des pays développés, parce que c'est nous qui avons créer ce mode de vie si désirable, d'aider les pays développés, en développement, à trouver une alternative au plastique.
Pour vous, la solution, ça passe par quoi? Pas forcément des solutions techniques, mais la solution, je dirais presque politique, c'est quoi pour vous, Eric Orsena?
C'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire ne pas jeter du plastique dans un être vivant qui s'appelle un fleuve. C'est ça l'affaire. C'est ne pas jeter du plastique un peu partout dans une forêt.
C'est-à-dire que vous dites aux citoyens, il faut s'approprier.
Oui.
C'est ta planète, quoi. C'est ton pays, c'est ton fleuve, c'est ton.
C'est exactement. Pourquoi je citais cet exemple de rivière indonésienne? C'est que c'était une poubelle. Elle dit non, c'est pas une poubelle, c'est ta vie là. Et pourquoi tel et tel est malade? Pourquoi ton oncle est malade? Pourquoi ta tante est morte comme ça? À cause de la rivière. Et quand vous avez en même temps une rivière avec de moins en moins d'eau, ce qui est le cas, et de plus en plus polluée, moins vous avez d'eau avec le même taux de pollution, c'est de plus en plus dangereux. Donc vous voyez, c'est à la fois, ça fait partie de ta famille, et donc c'est à la fois ta santé ou ta menace.
Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, après vous aurez, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais là, l'écologie punitive, avec un impôt supplémentaire, etc., c'est peut-être ce qui rebute le plus les gens à faire un effort ou pas, ou il faut instaurer une forme de punition.
Alors,
de taxation, voire.
moi, vous savez, c'est la démocratie qui est face à un vrai enjeu. Parce qu'elle doit être efficace, elle doit être efficace vite, et en même temps, on ne veut pas être trop méchant avec les gens. Moi, j'ai vu dans certains domaines avec les Chinois, j'ai été beaucoup en Chine, où le fleuve jaune n'allait pas jusqu'à la mer, on a pris des mesures qu'aucun responsable français n'aurait acceptées. Sauf que maintenant, le fleuve jaune revient jusqu'à la mer. Donc, voyez, il y a un peu les deux. Mais c'est surtout leur dire, mais c'est à vous. Vous n'êtes pas seul. La nature est votre continuité, votre prolongation, et la menace, pas seulement pour les enfants, mais pour vous-même. Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur l'eau.
Ouais.
Tout le monde s'en fout. Et j'ai dit, maintenant, je vais travailler sur les fleuves. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est une matière. Tout le monde s'en fout. Alors que si c'est le fleuve, tout le monde a une rivière dans son cœur.
Ah oui, c'est intéressant. Comme quoi, c'est très psychologique. L'écologie punitive, c'est une bonne idée, Sabine Roux-Bézieux?
Alors, je voudrais revenir sur ce que disait Eric Orsena sur la société civile et l'engagement des citoyens. Nous, à la Fondation de la Mer, on a un programme qui s'appelle Un geste pour la mer. On a 300 associations qui agissent sur le terrain, qui sensibilisent les citoyens, qui organisent des collectes de déchets. C'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Parce que d'abord, il faut pas qu'on considère que c'est le consommateur qui est responsable. Parce que c'est un peu ce que disent ce nombre d'entreprises. Ah bah écoutez, les consommateurs sont des pollueurs parce qu'ils jettent dans la nature. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, pour résoudre le problème de la pollution plastique, il faut remonter dès l'amont. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit ce traité plastique, de regarder tout le cycle de vie du plastique. Donc, en amont, La priorité, c'est de baisser la production. Ça ne va pas forcément faire plaisir à tous vos auditeurs, mais il va falloir baisser la production. Et en fait, on l'a fait en France.
Au recyclé.
Non, ça s'appelle la loi AGEC, donc l'économie circulaire. Oui. On a commencé par supprimer un certain nombre de plastiques. Les fameuses touillettes, les couverts en plastique. Alors, ça avait été très compliqué quand la loi est sortie. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de ne plus utiliser ces plastiques.
Et donc, il faut aller plus loin, c'est ça que
vous dites. Ce qu'on a fait en France, maintenant, on le fait en Europe, il faut le faire dans le monde entier. Il faut supprimer les micro-plastiques qu'on rajoute dans certain nombre de produits. Il faut s'assurer de l'éco-conception des produits. C'est-à-dire que quand on crée un produit, on sait exactement comment il va être géré en fin de vie. Donc, il y a tout
Il y a une attitude, un changement d'attitude.
Mais qui passe
D'abord par les entreprises.
Qui commence par l'amont.
Oui. Alors que les entreprises disent, c'est le consommateur d'avoir ce comportement, et vous nous dites non, vous renvoyez la balle en amont aux entreprises.
Et je dis que c'est un travail collectif dans lequel chacun doit jouer sa part, les organisations internationales, les pays, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens.
Vous avez lu le rapport de Pisani-Ferry, Éric Orsenna ?
Oui.
Est-ce que vous trouvez que il faut effectivement... alors, c'est un rapport très complet, où on a des objectifs, donc on en a largement parlé là, ici, donc on ne va pas forcément tout redire ce soir. Juste sur l'idée d'une taxation vis-à-vis une sorte de ISF climatique.
Écoutez, on doit aller plus vite. On doit aller plus vite, bien sûr. Et donc, il faut trouver les moyens d'aller plus vite. L'investissement, c'est pas une dette, mais il faut quand même trouver le moyen d'investir. Alors, il y a des fortunes, alors il faut voir à quel niveau, etc., dont la vie ne changerait pas s'ils contribuaient un peu plus. Comprenez, c'est ça l'affaire. Et je pense pas qu'il y aurait des baisses d'attractivité, comme on dit, de notre pays si on baissait un peu plus, si en même temps on offrait d'autres possibilités. Parce que si on taxe un peu en développant tout un pan d'économie qui va rendre plus de profit, parce que l'économie nouvelle, moi je suis pas du tout pour la décroissance.
Oui, ça c'était la question d'après, oui. D'accord.
Vous voyez,
vous y répondez tout de suite.
Bien sûr.
La décroissance, oui, mais est-ce que ce n'est pas quand même une forme de réponse ?
Non, c'est-à-dire la taxe.
C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de consommer autant.
Non, mais on n'est pas obligé de consommer autant. Mais voilà, la croissance, c'est la croissance dans le travail, dans la recherche. Dans la recherche, tout ce qu'on a dit, par exemple, d'abord savoir ce que c'est que avaler des petites billes de plastique. Et on ne le sait pas. Donc on dépense des milliards pour l'exploration de l'espace et on ne sait pas ce qu'on a au plus près de nous. Donc vive la science. Quand on voit le peu que gagnent les scientifiques, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous imaginez avec bac plus 10 et on est à le taux. Alors on va faire l'industrialisation. Très bien. Mais on a le budget consacré à la recherche est un des plus faibles d'Europe. C'est pas possible.
Un ISF climatique, votre réponse
Alors, comment on finance la transition
Il faut aller plus vite.
Comment on finance
la transition plastique ? Les objectifs fixés par l'année dernière par Elisabeth Borne, la Première ministre, sont très 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 élevés.
Sur le plastique, il y a une solution qu'on a mise en place en France. C'est le principe pollueur-payeur.
Ouais.
Ça s'appelle la responsabilité étendue du producteur. Ça marche. Alors, ça ne marche pas sur beaucoup de plastique. Ça marche sur le PET, nos bouteilles en plastique. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, je dis aux passants que la tonne vaut plus cher que le plastique vierge, ce qui pose quand même un autre problème, parce que ce n'est pas tout à fait incitatif pour les entreprises. Donc, ce système qui fonctionne pour le PET et un certain nombre de plastiques, il faut l'étendre sur tous les plastiques. C'est assez efficace. C'est 1 milliard d'euros cité aujourd'hui en France. Donc c'est pas des montants négligeables. C'est reversé aux collectivités locales et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de pays dans le monde. J'ai vu dans les discussions les couloirs de l'UNESCO aujourd'hui le président de Citeo qui discutait avec beaucoup de ministres de l'environnement qui sont intéressés par le modèle français. Donc c'est un système, c'est une forme de taxe déguisée.
Et une taxe sur l'ISF, un ISF climatique, vous y êtes favorable ?
Écoutez, ce n'est pas le rôle de la Fondation de la Mer de se positionner sur des taxes sur les personnes physiques.
Non, mais vous êtes une citoyenne.
Mais pour nous, un système macro qui a fait ses preuves sur un pays mérite d'être étendu dans d'autres pays, parce que toute l'Europe est en train de la mettre en place. Donc, ça vaut la peine d'aller le mettre ailleurs.
Plus que ça. Parce que le plastique, on dit qu'on va le recycler. Mais est-ce que la solution ne serait pas de dire on supprime le plastique ? Parce que s'il y a des demi-mesures, c'est comme la discussion de savoir s'il y a des polymères qui peuvent être autorisés, d'autres qui ne peuvent pas l'être. Est-ce que si on a des demi-mesures, finalement, ça ne débouche sur rien ?
Alors, vous allez me faire faire la publicité du plastique, là, je sens. Donc, il y a des plastiques indispensables.
Pas mal amené,
on en a dans le secteur médical, par exemple. Ouais. On en a dans l'alimentaire, la lutte contre les maladies infectieuses et toute une série de bactéries vient du fait qu'on utilise du plastique. Dans l'automobile, on a réduit significativement les émissions de CO2 en baissant le poids des voitures, en mettant beaucoup de plastique dedans. Donc, je pourrais vous énumérer.
Donc, c'est utile.
Le plastique, c'est fantastique.
Ouais.
Mais il faut en supprimer. Non, c'était une chanson des années 70, je crois.
Il y avait même un plastique Bertrand.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est supprimer les plastiques dangereux ou inutiles. Et il y en a beaucoup. 40% des plastiques au niveau mondial sont des emballages. Alors, on a peut-être besoin de certains emballages, mais sans doute pas autant qu'on en utilise aujourd'hui.
Oui. Il faut en tout cas une décroissance dans le plastique. Eric Orsenna, est-ce que vous parliez tout à l'heure de ce sur quoi vous travaillez avec Sabine Roux-de-Bézieux auprès des collectivités locales. Collectivités locales, les maires, ils ont un souci, c'est qu'il faut se faire élire et puis réélire. Mmh. Est-ce que vous les sentez suffisamment mobilisés pour dire on réfrène le plastique chez nous, dans nos communes? Est-ce que c'est devenu finalement quelque chose de plutôt un argument marketing? Enfin, excusez-moi, est-ce que c'est pas ça finalement la question?
Ce qui m'a frappé, c'est que avant la grande réunion climatique de Paris, j'avais animé la COP des territoires. Et c'était passionnant parce qu'il y avait les entreprises et les villes, les grandes villes du monde, qui étaient responsables du dérèglement. C'était chez les responsables du dérèglement qu'on avait les solutions. Mmh. Et non pas l'affrontement des États avec les ONG, qui ont des vrais rôles, mais qui peuvent rester longtemps. Donc c'était ces solutions-là. Et on voit, en fonction des villes, c'est la même chose. La ville, c'est à toutes les échelles, c'est un être vivant. Et on participe tous à ces êtres vivants. Et c'est peut-être, moi, je défends ma corporation des raconteurs d'histoire. Mais il faut raconter l'histoire de telle ville. Telle ville a supprimé ça. On vit plutôt mieux qu'ailleurs. On a envie de venir, etc. Vous voyez, c'est ces histoires-là. Et c'est pas juste, être dans la mode, pas du tout. Et lié avec les plus jeunes, les enfants en classe. Moi, je travaille là-dessus. On va annoncer une mesure là-dessus. On va faire adopter par des classes des morceaux de rivière. Eh bien, si les enfants...
Super.
On va lancer ça très bientôt. Ben, si les enfants voient en CM1, CM2, ils disent, ils engueulent les parents en disant, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est ma rivière. Vous comprenez? C'est pas de l'abstrait, ni de la punition. C'est de la narration.
Il y a la même chose pour l'océan avec les arts marines éducatives, où il y a des classes généralement de primaire qui s'occupent d'un petit coin d'océan à côté de chez eux.
C'est mon océan, c'est ma part d'océan.
Tous les territoires français.
Il faut montrer que c'est
ma part d'océan.
On est tous concernés.
Et c'est pas triste puisque c'est possible encore une fois. Moi, je suis pas du tout dans la punition de dire c'est possible. Il y a plein d'exemples possibles. C'est plus agréable de revoir la surface de la rivière plutôt qu'une sorte de manteau de saloperie.
Toute petite, un point, parce qu'après, il nous reste 2 minutes et j'ai 2 petites questions, assez essentielles. Alors,
vite, ce qu'on voit aussi sur le plastique, pour répondre à votre question sur la suppression du plastique, ce sont des alternatives au plastique.
Ouais.
Nos grands-mères ou des pays à l'autre bout du monde utilisaient d'autres matières que le plastique. Et donc, il faut revenir à ces matières naturelles, des fibres naturelles qu'on trouve partout dans le monde et qu'on a totalement oubliées.
Est-ce que vous croyez dans ce processus de décivilisation, Eric Orsenna? Là, je fais appel plutôt l'écrivain et l'académicien. C'est Emmanuel Macron qui a prononcé ces mots, puisqu'on a commencé tout à l'heure en disant que c'est une question de civilisation. Est-ce qu'on est dans un processus de décivilisation?
À toutes les échelles, personnelles ou d'une nation, ou même le monde, la violence l'emporte sur un pas de projet. Parce qu'il y a une dynamique. Il faut être là. Donc, s'il n'y a pas de langage. Quel est le projet pour la France? J'aimerais bien le savoir. Je ne vois pas le projet pour la France. S'il n'y a pas le projet, évidemment, chacun se replie dans son petit pré carré et développe son ressentiment ou sa haine vis-à-vis des autres. Quel est l'élan? Qu'est-ce qu'on veut? Ça serait quoi la France dans 30 ans? À la fois, dans tous les domaines, c'est l'industrie, la réindustrialisation, bien sûr, mais c'est un moyen, ça veut dire quoi? Vous voyez, ce genre de mécanisme-là, c'est ça que j'attends, moi. Et c'est, on a abandonné des tas de choses, comme la planification à la française, où tout le monde s'est réunissait. Moi, je vois dans les parlements de l'eau, ils se mettent d'accord, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ensemble la Loire? Eh bien, ça va mieux, et le taux de haine diminue.
Ouais. Deuxième question, alors là peut-être aussi ça peut vous concerner, ça vient de rouler mes yeux, mais je me tourne encore vers Eric Orsenna. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le flash de Faiza Younsi qui dit, Sam Altman qui dit, attention ChatGPT, ça menace l'humanité. Est-ce que l'intelligence artificielle menace l'humanité?
Alors, je pense que c'est un degré supplémentaire à toutes les autres inventions. Parce que les autres inventions qu'on avait, l'électricité, la machine à vapeur, etc., c'était pour gagner du temps. Là, c'est dans le mécanisme mental même. Donc, c'est une réflexion absolument clé. Et je travaille avec un certain nombre de gens, dont Gilles Babinet, sur ces questions, pour justement dire, on a toujours tendance à dire, ah, c'est radicalement nouveau. Ouais. Là, je pense qu'on y est. Ça ne veut pas dire que, et je suis ce qu'il dit, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter nous, parce que les méchants continueront toujours.
Donc, toujours. Tout le monde continue.
Donc
quoi.
Il faut savoir ce dont il s'agit.
En un mot, Sabine Roubézieux, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de vous rejoindre, Fondation de la Mer, on peut y contribuer?
Fondationdelamer.org, évidemment, on peut y contribuer. On a des milliers de citoyens qui nous aident déjà en participant à des collectes de déchets, en allant parler dans les classes ou en faisant des donations. Donc, n'hésitez pas.
Merci beaucoup, merci Sabine Roux-Bézieux, Fondation de la Mer, je le rappelle. Merci Eric Orsenna, j'en profite, la Terre a soif. Le prochain, c'est sur quoi?
Si la Terre a soif, il se pourrait bien que nous ayons faim.
D'accord, jour. Ok.
Et oups. C'est un gastronome qui vous parle.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici. Puis on espère que les négociations vont quand même se débloquer et qu'il y aura peut-être en tous les cas les prémices d'un accord. Voilà, si vous voulez réécouter cette émission, évidemment, il y a le petit QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. Sinon, sur le site de BFM Business, en replay, eh ben, on va parler encore une fois d'intelligence artificielle. Tout de suite, c'est Tech & Co, comme tous les soirs, François Sorel. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.